RCF. Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 17e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+. Rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibray Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, ils ont une fois de plus répondu à l'appel. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team dans son intégralité qui est de retour, puisque outre votre serviteur, j'ai le plaisir d'accueillir au pied des Alpes Monsieur Frédéric Protin. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Un autre grand plaisir, c'est celui de retrouver Renaud Sorel. Salut Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Depuis l'Aude, nous retrouvons d'abord nos deux Christian, à savoir d'abord Christian Guitard, Tahiti Bob pour les intimes. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bonjour Patrick.
Et puis bien sûr, notre vénérable préféré de retour tout bronzé, c'est Christian Mosna. Salut Christian.
Bonjour à tout le monde.
Et puis puisqu'on parle de l'Aude, un grand retour, celui qui nous avait manqué, c'est Manu Duval. Bonjour Manu.
Salut Patrick, salut à tous.
Et puis vous le savez, pour mettre un nom de cette émission, on a besoin d'un magicien, d'un homme aux doigts de fée. Et c'est GG, justement, Jérôme Bozon, qui sera aux manettes aujourd'hui.
Et bien le bonjour tout le monde.
Au menu aujourd'hui de la table de Côté Ouvert, ça va être un pêle-mêle d'un peu tout, c'est-à-dire un petit point sur le 15 de France féminin. On parlera de la saga du maintien en Pro D2 parce que c'est vraiment haletant. Un coup d'œil forcément sur la nationale où les choses commencent à se décanter. Et puis, si on a le temps, si on est efficace, mais on l'est, on ira faire un petit détour vers la Coupe d'Europe. Et une petite Marseillaise, Monsieur Protin, pour bien commencer, parce qu'on sait que toi, comme d'autres, mais toi, tu suis beaucoup de rugby différent, et on aimerait que tu nous fasses un petit point sur le début du tournoi Destination Féminin et du 15 de France seulement. On va être chauvin, parce que les filles semblent bien parties sur ce tournoi, mais ça n'est pas terminé.
Oui, Patrick, tu as raison. Donc, après les deux premières journées, les Françaises qui avaient débuté un petit peu timidement en Italie en gagnant sans le bonus offensif, elles avaient gagné 22-12. Là, elles se sont bien rattrapées contre les Irlandaises en Irlande. Donc, 9 essais à aucun, puisqu'elles ont gagné 53-3. Donc, on a vu un jeu beaucoup plus... en rapport avec un petit peu les intentions du jeu de l'équipe de France, avec beaucoup de jeux de passe, beaucoup de mouvements, beaucoup de courses. Donc, on a retrouvé un peu l'équipe de France comme on l'aime et comme on l'avait vu lors de la dernière ronde. Et donc, c'est plutôt bien parti. Alors, il lui reste trois journées, cette équipe de France. Donc, le prochain match contre les Écossaises à Vannes, au stade de la Rabine,
je crois que c'est le 16 avril.
16 avril. Et puis, bien sûr, le match à Grenoble qu'on attend contre les Galloises, le 23 avril. Et puis enfin, le crunch, probablement, contre les Anglaises à Twickenham, le 29 avril.
Donc, Fred, le rendez-vous majeur, là, ça va être le crunch ou déjà les Galloises qui ont l'air pas mal aussi, ça va être un sacré morceau.
Oui, les Galloises qui ont bien débuté, deux victoires bonifiées, donc faudra s'en méfier. C'est une équipe, en fait, c'est un pays qui a commencé un petit peu à instaurer du rugby professionnel. Les joueuses ont des contrats avec des clubs pro, donc c'est un rugby qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Je pense que le crunch sera déterminant pour la victoire du tournoi, mais il faudra se méfier des Anglaises, des Galloises, pardon.
Merci Fred. Écoute, pour ce point détaillé sur les Françaises, et puis nous on va se tourner vers une saga, celle de la Pro D2. Ah ouais, on vous a dit aujourd'hui, c'est un pêle-mêle, une tournée d'horizon, parce qu'on va parler Pro D2, on en parle régulièrement, mais là, c'est la course au maintien qui est vraiment, je le disais tout à l'heure, en annonce haletante. Et cette fin de saison, elle va être compliquée. Très fort est celui qui aujourd'hui pourra dire qui va accompagner Massy en championnat national. Alors, on va profiter de nos deux carcassonnés, les deux Christian, qui étaient à Domecq vendredi, non pas pour faire un remake du match, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas trois, mais quatre équipes qui se battent sur le maintien. Tu vas commencer avec Tahiti Bob. Est-ce que tu mettrais toi aussi Rouen dans le lot avec Soyo, Carca et Montauban?
Tu as tout résumé, Patrick. Merci, effectivement. Merci, au revoir. Non, c'est tout à fait ça. Là, il y a quatre équipes aujourd'hui qui se battent. Il y a déjà un gros break qui est fait entre Rouen et l'équipe qui est un petit peu au-dessus avec 55 points de mémoire. Tu me dis, Christian, si je me trompe. Donc voilà, ça va se jouer sur Rouen, ça va se jouer sur Angoulême, ça va se jouer sur Carca, ça va se jouer sur Montauban. Et donc, du coup, on regarde tous avec attention le calendrier, hein, Christian, c'est ce qu'on fait là.
Oui, tout à fait. Hein. Je crois que c'est historique en Pro D2 d'avoir quatre équipes qui vont batailler pour la dernière place dans la charrette. Mmh. Et c'est celui qui va trouver le malheureux, le zélu, ça va être très difficile. Moi, j'ai une petite idée par rapport, ma modeste opinion là-dessus, c'est que pour moi, finalement, même s'ils sont devant tout le monde actuellement, ce sont les Rouennais qui me paraissent les plus en difficulté parce qu'ils n'ont plus qu'un seul match à domicile.
Exact.
Et ils se déplacent à Montauban,
à Colomiers.
À Colomiers, ils reçoivent Béziers. Là, je pense que ça devrait le faire parce que les Biterrois n'ont plus rien à jouer, donc ils vont pas aller s'exploser. Et je les vois. Pour moi, la barre des 55 points, c'est la barre du maintien. On peut se maintenir à 54. Mais ça va être compliqué.
Ouais, surtout que toutes ces équipes, les deux Christian, vous n'allez pas me contredire, la plupart d'entre eux, ils ont dans leur dernière confrontation des gars qui jouent ou qui peuvent encore jouer le top 6. Ouais. Donc, ils vont jouer contre des équipes qui ne vont strictement rien lâcher, à part éventuellement Béziers, sachant que tu parlais de Rouen, Christian, ils finissent à Mont-de-Marsan. Est-ce que, monsieur Guittard, vous n'auriez pas coché, vous, sur votre agenda, un certain Montauban Carcassonne pour, je crois, la 28e journée la 29e journée de
Ouais, là, c'est l'avant-dernière journée. Oui, on l'a bien évidemment coché parce que ça sera un match à gros enjeux. Alors déjà, on verra l'évolution quand même, hein, parce que là, c'est Carca qui se déplace à Agen et malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse faire un aussi bon résultat que justement Montauban a été faire à Agen. Donc ça va probablement déjà un petit peu modifier la donne, mais effectivement, ce Montauban Carca, il s'annonce chaud bouillant. Il va se dérouler à Sapiac, c'est jamais facile d'y gagner.
Ouais.
Et on finit par Provence, qui, comme tu le disais à l'instant, va avoir des trucs à jouer. Donc effectivement, la saison, là, je voudrais bien piquer la boule de cristal à Manu, parce que là, franchement, ça, on est vraiment dans le noir là.
Ouais. Je crois que pour Provence, on n'aura rien à jouer. J'en suis presque sûr, vu le calendrier qui leur reste. Je pense qu'ils viendront à Domecq en tong, d'après moi. Hein. Mais quand on regarde l'équipe qui a le calendrier le plus terrible, c'est Soyo.
Hein. C'est Angoulême.
Ils vont à Vannes.
Ils reçoivent Biarritz.
Ils reçoivent Mont-de-Marsan et Biarritz. Et ils vont à Oyo. Et Oyo, sur le dernier match, comme ils vont rester 15 jours sans jouer, ils ne vont pas faire d'impasse sur le dernier match, hein, les Oyomen. Donc le calendrier, quand on regarde de près, c'est encore plus serré que ce qu'on imagine par rapport au calendrier des uns et des autres.
Il y a le calendrier, puis il y a la dynamique aussi. Nous, on a vu quand même avec Christian une équipe de Carca là, qui se retrouve depuis 2-3 matchs. Hein. C'était un beau match contre Biarritz, un gros match intense. Les Biarrois avaient le ballon, il y avait beaucoup de vent, c'était pas simple, mais on a vu une belle équipe de Carca. Il y a une belle dynamique, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve du côté de Sapiac aussi. Donc tu le disais, Patrick, ça fera un match Montauban Carca qui va être chaud patate, comme on dit.
Bah, écoutez les garçons,
on va aller chercher un point.
Ouais, nous on va garder un petit peu le focus là-dessus dans les prochaines émissions. Et puis je rappelle que mon remplaçant du 17 avril sera en charge de mener tout ça avec une main de maître. Et justement, tiens, si on abandonnait de notre côté la Pro D2 et qu'on descende d'un cran, messieurs Sorel et Duval, vers la nationale.
Présent.
Et oui, Renaud, quand on a besoin de lui, on sait qu'il est toujours là. Alors je dis Renaud et Manu, mais ceux qui veulent intervenir, bien sûr, interviennent. La nationale, parce que ça se décante, il ne reste plus que trois journées à disputer. Le week-end qui vient de s'écouler donc était la 23e journée, donc il nous reste de la 24e à la 26e. Messieurs, je rappelle rapidement le classement actuel. Premier Dax, second Valence Roman. Alors Dax 90 points, Valence Roman 80 points. Albi en embuscade 76 points. Pas très loin non plus Blagnac 73 points. L'USB, c'est-à-dire Bourg 70 points, 5e. Bourgoin 65 points. Et puis 7e, les Tarbais qui pouvaient peut-être encore prétendre avant ce week-end accrocher quelque chose, qui ont laissé leurs espoirs, je pense, de qualif du côté d'Albi, 60 points. Est-ce que vous pensez, les garçons, on va commencer avec Manu, que le tableau actuel, là, les 6, c'est peut-être pas l'ordre d'arrivée, mais on est dans le vrai avec ces 6 premiers?
Oui, je pense que les six y sont. Tarbes a laissé passer sa chance déjà la semaine dernière, hein, il y a 15 jours, avec un match nul à domicile contre Suresnes. Là, ils ont pris aussi la foudre Albi, hein, on en reparlera peut-être un peu. Je pense que, à mon avis, c'est cuit pour eux. Par contre, l'ordre, non. Moi, pour avoir vu cette équipe de Blagnac, méfiote, hein, comme on dit ici, parce que elle est pas loin d'Albi. Et puis Albi va se déplacer à Bourg ce week-end. Et Blagnac, lui, par contre, va recevoir Nice. Blagnac, qui, à mon avis, va faire un quart de finale à domicile. Alors sera troisième ou quatrième, je ne sais pas. Par contre, ouais, moi, je vois bien Bourgoin quand même finir sixième avec un calendrier quand même assez favorable. Je sais pas ce qu'en pense Renaud, mais les six sont là avec toujours une surprise. L'année dernière, on avait Chambéry. Cette année, c'est Blagnac.
Pour une fois, Renaud est tombé de la chaise. Le bruit que vous avez entendu, chers auditeurs, c'est juste.
Ouais, il s'est relevé, voilà.
Non, mais je pense qu'on a quasiment les six définitifs là, même si mathématiquement Tarbes, Nice, même Narbonne peuvent encore jouer quelque chose, mais le week-end prochain, je pense qu'on va voir pas mal la situation se décanter, puisqu'il y a Tarbes-Valence, il y a un Bourg-en-Bresse Albi, il y a un Blagnac-Nice, c'est-à-dire que et Nice, par exemple, et Tarbes vont tirer vraiment leur dernière cartouche dans l'espoir hypothétique de se qualifier. Après, je suis un petit peu d'accord avec Manu. Blagnac a un calendrier très favorable. Ils ont deux réceptions, Nice et Suresnes, pour un match à l'extérieur Bourgoin, alors qu'Albi a deux déplacements. Alors, deux déplacements. Ils vont à Bourg, ils reçoivent Chambéry et ils vont à Cognac. Sachant que tout le monde a été gagné à Cognac et tous les gros sont revenus avec 5 points. Donc, si jamais ils trébuchaient à Cognac et qu'ils ne ramenaient pas 4 ou 5 points, ça serait problématique. Mais effectivement, ce week-end, on pourrait avoir, je pense, quasiment la photo définitive des phases finales en national.
Christian Mosna, est-ce que toi, tu vois, avec ton expérience et ton recul, une surprise possible entre ces 6, parce que quand même, les 7, 8 et 9, ils auront du mal à accrocher quelque chose. Donc, entre les 6, est-ce que tu crois que l'ordre définitif pour toi, ou il y a peut-être marginalement quelque chose qui peut bouger?
Moi, je pense qu'Albi peut rentrer encore dans les deux, parce que Bourg ne tourne pas très, très, très bien. Hein, apparemment, les matchs, je lis beaucoup de commentaires de nos amis Bressam qui pestent contre la qualité de leur jeu. Et moi, je crois qu'Albi a un coup à faire à Bourg et ça pourrait rebattre toutes les cartes dans l'optique de la deuxième place, parce que Valence Roman pas loin devant. C'est le seul endroit où je vois peut-être une modification.
Renaud ?
Ouais, je pense que si Albi, en plus ils jouent vendredi soir, donc ils vont mettre la pression sur Valence Roman qui joue le lendemain à Tarbes. Si jamais Albi ramène une victoire de Bourg-en-Bresse, on connaît Mathieu Bonello qui, bien qu'il ne lise pas le classement, ils vont aller chercher cette deuxième place qui est synonyme de demi-finale retour à domicile.
Et ça, c'est
et on a vu que jusqu'à présent, tous les demi-finalistes nationaux depuis la création de cette poule sont montés. Donc, je suis un petit peu d'accord avec Christian. Ils vont jouer, je pense, leur va-tout sur ce déplacement à Bourg-en-Bresse. Et pour, dans l'optique, effectivement, d'aller chercher la deuxième place qualificative. Sinon, après, ils conforteront leur troisième ou quatrième place avec un quart et uniquement un quart à domicile.
Moi, pour conclure ça, je voudrais juste rappeler une chose. Cette année, c'est la dernière année où les deux finalistes vont monter directement en Pro D2. À partir de l'année prochaine, on est sur le modèle Pro D2 Top 14, c'est-à-dire le premier et le vainqueur de la finale monte et le finaliste perdant joue un barrage contre le 15e de Pro D2. J'ai raison, monsieur Sorel.
Vous avez entièrement raison. Donc ça va être de plus en plus compliqué à terme de monter en Pro D2 comme ça l'est. Compliqué de monter en top 14.
Manu, 10 secondes.
Oui, une chose importante aussi, hein, n'oublions pas le croisement entre, je crois, c'est le premier troisième, hein, Renault, et le second quatrième, c'est ça. Oui, ça peut avoir son importance après, hein, quand on arrivera en fond, est-ce qu'on préférera aller jouer Dax ou est-ce qu'on préférera aller jouer Valence ?
Manu, on va le surveiller tout ça, et nous, on va passer la vitesse supérieure, parce que là, on monte dans les limbes et on part en Coupe d'Europe. Et oui, parce que ce week-end, c'était aussi un week-end de huitième de finale en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe avec un match sec pour la qualification en quart de finale. Les garçons, bilan des Français, il n'y a pas grand monde au portillon, j'allais dire, parce que dans la petite Coupe d'Europe Challenge Cup, il reste trois Français qui ont survécu à tout ça. Clermont ira au Scarlett. Et puis, on aura un duel franco-français. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura moins français en demi-finale, à savoir le duel entre Toulon et Lyon. Et côté la coupe aux grandes oreilles, la H-Cup, on va avoir tout simplement deux représentants. Alors, pas des moindres quand même, puisqu'il y aura un certain Stade Toulousain et un certain Stade Rochelais. Mais enfin, messieurs, là, je vais vous lancer à tous là-dessus. Première chose, moi je dis le chat est maigre, 5 clubs français en Coupe d'Europe, en prenant les deux Coupes d'Europe. Est-ce qu'on a des raisons d'être déçus ? Tiens, monsieur Guittard, vous qui êtes fier d'être Toulousain, j'imagine.
Oui, oui, fier, parce que c'était pas si simple de rencontrer pour la première fois ces franchises Sudaf qui modifient un petit peu la donne. Hein. Ça fait aussi on en a encore deux, je crois. Il me semble qu'il y a les Stormers et donc les Sharks qui se retrouvent en quart de finale. Donc ça veut dire que ce sont des clubs et des franchises qui sont venus intégrer cette H-Cup. Et forcément, les places sont encore plus compliquées à aller chercher. On l'a vu avec Montpellier qui est passé tout près d'un petit exploit. Et puis surtout, en phase de poule, un certain nombre de clubs qui ont été éliminés. Donc, c'est assez logique, puisqu'on met davantage de clubs, que ça soit un peu plus compliqué pour les Français. Après, les deux clubs qui restent, ça me semble quand même être deux candidats extrêmement crédibles pour La Rochelle pour se succéder à lui-même et pour le Stade Toulousain d'arriver assez haut, quoi.
Monsieur Protem, cette Coupe d'Europe, elle s'inspire quoi avec ces clubs sud-africains ? C'est une hérésie où il faut s'ouvrir pour justement élever le niveau ou peut-être rentrer plus de pépettes, parce qu'il y a quand même, j'imagine, un gros enjeu financier pour les droits télé d'intégrer ces clubs de l'hémisphère sud.
Oui, c'est clairement une histoire d'argent. Hein. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Sur le plan sportif, c'est évident que ces clubs-là apportent de la concurrence et augmente le niveau de la qualité du rugby, de la compétition. Mais je pense que c'est quand même beaucoup une histoire de retombées financières. Par rapport est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est pas intéressant, je sais pas. Mais en même temps, on a vu quand même à Toulouse contre les Bulls, ça a quand même donné un match très très intéressant, surtout en deuxième mi-temps. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement, il y avait beaucoup de jeu. À terme, on ne sait pas. Hein, c'est la première année que ça se déroule comme ça. C'est vrai que dans la formule précédente, Coupe d'Europe, il n'y avait que des clubs européens, ce qui me paraissait logique. Oui. Là, maintenant, on intègre des nations du Sud. Rien contre ces nations, mais en même temps, ça ne s'appelle plus la Coupe d'Europe, quoi. Donc, maintenant, pour les performances des clubs français, je trouve que Toulouse, La Rochelle, logique, hein, c'est les deux premiers du top 14. Donc, Montpellier, ils sont quand même passés pas très loin.
Ouais, ouais, ouais.
En top 14, ils oscillent entre le haut et le bas. Donc, moi, ça me paraît assez logique.
Monsieur Mosnin, justement, quand ces équipes, elles vont jouer sur les deux tableaux, notamment, je pense à Toulouse, je pense à La Rochelle, même si ceux de la Challenge Cup, elles ont aussi quelques ambitions. Mais est-ce que ça va pas être compliqué avec les cadences actuelles, avec la Coupe du Monde à venir? J'imagine que les joueurs, notamment les internationaux, ont ça en tête. Est-ce que ça va pas être un petit peu problématique ou difficile de jouer sur les deux tableaux à la fois, avec ensuite, alors peut-être que vous me direz, il ne faut pas y penser, mais peut-être la peur de la blessure, donc pas se livrer pleinement pour pouvoir en septembre répondre à l'appel. Est-ce que cette dimension, elle peut avoir un impact sur les clubs français ?
Clairement, La Rochelle et Toulouse, surtout Toulouse, qui a été très impactée par le tournoi, avec des joueurs qui ont quand même laissé un peu leur beaucoup de jus dans cette compétition. Là, c'est la Coupe d'Europe. Les Toulousains ont annoncé qu'ils veulent la gagner. Ils ont un effectif large, mais les blessures, là, je crois qu'il y a le talonneur Marchand qui s'est blessé. J'espère que ce n'est pas très grave. Mais je suis un peu inquiet quand même parce que les Sudaf, par exemple, n'ont que ça à jouer. Donc, dans les cadences, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça se ressent. Et puis, j'ai trouvé aussi les clubs anglais un petit peu à la ramasse, hormis Exeter et encore Exeter. Ils ont fait un hold-up contre Montpellier avec un arbitrage plus que bienveillant.
Oui, c'est ce que disait très poliment le manager montpelliérain. Hein. Il a formulé très.
C'était une mascarade d'arbitrage, hein, honnêtement. Bon, le carton rouge sur Mercer, il était. Il n'y a rien à dire, mais après, il y a des erreurs d'arbitrage grossières à ce niveau-là. Quoi. C'est sans devenir risible. Et bon, je ne suis pas un fan de Montpellier de base, mais. Franchement, ils se sont bien fait voler.
Monsieur Sorel, tu n'étais pas tout à fait d'accord sur le fait de courir plusieurs lièvres à la fois parce que tu penses que nos clubs ont l'effectif suffisant.
Oui, le Stade Toulousain, ils ont très bien passé le tournoi. Ils n'ont pas laissé de points de plume comme les saisons précédentes. Pas Au trop, contraire, ils
ouais.
ont engrangé.
Ils ont engrangé, ouais, c'est vrai.
Ouais, quand tu te permets quand même de faire débuter Thibaut Flamand qui a survolé le tournoi en remplaçant, c'est que bon quand même ça va. Ils vont tout donner ce week-end prochain parce qu'ils jouent la Coupe d'Europe à fond. Les Toulousains, ils jouent les deux tableaux à fond. Je suis pas inquiet. Mola a très très bien géré son effectif et c'est quand tu regardes le temps de jeu par exemple d'un Thibaut Flamand, je veux dire, il joue très très peu. Donc moi je suis pas inquiet. Pour les équipes françaises, même la Rochelle qui a un effectif moindre que Toulouse, mais bon quand même, quant aux Anglais, Christian, il y a quand même trois équipes d'Angleterre, deux françaises, deux africaines et une seule irlandaise, hein. Donc les Anglais ils sont pas, au niveau international ça va pas, mais au niveau des clubs, la Coupe d'Europe justement, enfin la pseudo-Coupe d'Europe à la Mourmoi-le-Neuf leur apporte une belle bouffée d'oxygène.
Manu, ouais,
comme de l'Afrique du Sud, bon, ça, c'est. On pourra faire 2 heures d'émission si vous voulez, j'aurai de quoi dire.
Manu, voilà. Comment tu sens les clubs français, toi, puisque tu es notre extra-lucide un petit peu. Est-ce qu'il y a de la sérénité pour toi du côté Stade Toulousain, Stade Rochelais? Est-ce que tu partages un petit peu l'avis de Renaud sur Toulouse qui arrive quand même assez serein?
Oui, Toulouse, oui. Hein. On a quand même vu que La Rochelle, ça a été un peu compliqué quand même pour
battre cette
équipe de Gloucester. Même Teddy Thomas, il s'est compliqué sur le dernier essai. Se demande pourquoi il n'est pas allé en bord de touche. Mais bon, il l'a planté. Ouais, parce que s'il ne le plante pas là, quand même, je pense que là, c'est cuit. C'est cuit pour lui. Mais Toulouse, oui, Toulouse, valeur sûre, qui va certainement, à mon avis, vu le tableau, retrouver le Leinster, hein, il me semble, là, puisque c'est le Leinster contre Leicester, donc contre l'équipe d'Irlande, du coup. Et puis La Rochelle, qui, dans sa partie de tableau, peut-être, on peut avoir un remake en fait en finale de l'année dernière. Hein. On peut retrouver également à La Rochelle Leinster. Ah, mais non, Toulouse, oui, serein. Par contre, il faut pas qu'ils se pètent hein, tous ces copains là, parce qu'on en aura bien besoin à partir de septembre. Donc attention, on va surveiller tout ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas faire des déplacements, parce que moi, la Coupe d'Europe pour aller en Afrique du Sud, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Je peux vous dire que j'ai pas trop bien regardé aussi, parce que bon, la Coupe d'Europe pour moi, c'est en Europe, c'est pas en Afrique du Sud.
Le Munster a apprécié. Ils étaient en hiver en Irlande, ils se sont retrouvés avec 35 degrés à 1 mètre d'altitude à Durban.
Ouais, tu m'étonnes.
Donc pour les vacances,
les organes.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
Et ils ont pris 50 points.
Et là, on voit clairement que c'est derrière moi, c'est calculé, c'est calibré pour rendre des produits médiatiques, mais il n'y a pas forcément l'intérêt sportif, enfin l'intérêt du sportif, pas sportif.
Après, je pense que Renault, c'est ce dont il veut parler, mais les Sud-Africains aussi sont impactés. Hein. Enfin, il y a un article du Middle, vous le connaissez tous, qui renvoie quand même au fait que ces équipes elles jouent 2, 3, 4 compétitions à la fois,
Cup, hein.
Exactement, ouais. En même temps, avec quasiment les mêmes horaires. Donc, bon, voilà, on a pour l'instant un produit qui est mal ficelé pour ce qu'il veut vendre, ça, en tout cas, c'est certain.
Tiens, Christian, je vais te laisser la parole.
Et les audiences ne suivent pas pour l'instant.
Ouais. Je vais laisser la parole à Christian parce que moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, qu'on a encore vu briller d'une grande modestie, mais d'une classe folle. C'est Monsieur Guitard. J'aimerais que tu nous parles un peu de Thomas Ramos, qui clairement là devient le joueur. Même Hugo Amola lui a rendu hommage en disant qu'il était non seulement de classe internationale, même de classe mondiale.
Tu m'as piqué ma phrase. Hein. J'allais me servir de ce qu'il a dit.
Ouais, mais non, moi aussi, j'ai pris Hugo Amola.
C'est ça. Mais tu as bien résumé. Il l'a bien résumé. Voilà, on sent que ce tournoi, on semble-t-il, l'a libéré. C'est vrai que c'était un joueur qui était en doute, en balance avec Jaminet. Il avait fait pas mal d'allers-retours. C'était un petit peu compliqué pour lui. Et puis là, sur ce tournoi, on l'a tous vu. Il s'est vraiment, on l'a retrouvé, le Thomas Ramos qu'on voit au Stade Toulousain. Il a pu s'exprimer à l'international et je pense que lui-même le dit. Ça lui permet de moins avoir de poids sur les épaules et de jouer le rugby qu'il aime jouer. Après, c'est sûrement plus facile de jouer ce rugby-là quand t'es au Stade Toulousain et que ton équipe domine. On verra contre les Sharks si c'est toujours aussi étincelant quand même.
Eh bien, écoute, Christian, ces belles paroles sont encourageantes. En tout cas, vous, les garçons, vous avez plusieurs missions. La première, c'est de bien suivre cette saga donc du maintien en Pro D2, de voir si nos prédictions sur le haut de tableau national se confirment. Toujours donner un petit coup d'œil sur les filles qui mènent à bien pour l'instant leur tournoi avec deux victoires en deux matchs et rester focus sur et le top 14 et la Coupe d'Europe. Et bien entendu, trouver... un remplaçant pour le 17 avril. Je lance un appel. Si les auditeurs d'RCF, quelqu'un veut se lancer dans la conduite d'une bande de zozo qui est très, très agréable à manier en émission, venez, c'est ouvert. C'est pour vous parce que je serai malheureusement loin de vous en Andalousie avec des élèves pendant.
Avec Francis Cabrel.
Absolument. En tout cas, merci à tous. Bon appétit à nos auditeurs et à nos auditrices. Et à très vite sur RCF pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.